Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Arnaud Valadon.
Salut à tous, bienvenue dans le paddock RMC, comme tous les lundis, votre rendez-vous qui débriefe les courses, les grands prix de cette saison 2026 passionnante. Et aujourd'hui, débrief de ce grand prix des Pays-Bas avec, j'ai envie de le surnommer, le Bernier Ecclestone de RMC. Jean-Luc Roy, le King qui est là.
Alors, je prends le bon côté, car il avait un très bon côté, Bernie, il l'a toujours
eu. Le compte en banque.
Pas seulement, c'était un passionné de sport automobile, je peux le démontrer avec plein d'exemples. Alors évidemment, il était avide de dollars, mais qui ne l'est pas en formule.
Oui, c'est pour ça que je me suis dit, tu l'appréciais, tu l'aimais, tu l'aimes bien.
Oui, je le respecte, en tout cas.
C'est pour ça que je me dis qu'il y a une petite comparaison.
Et si on est à la parenthèse, tu sais, j'ai eu le plaisir de travailler avec lui à l'époque de Kiosque. On a mis au point toute la couverture numérique, on avait des débriefings après chaque Grand Prix. Et il admettait un type de sa puissance, de son aura. Je n'y connais rien, expliquez-moi. On lui expliquait pourquoi il fallait déplacer une caméra, pourquoi il fallait faire ci, pourquoi il fallait faire ça, il notait. Et la réunion d'après, tu imagines un peu. Donc c'est un type que je respecte infiniment.
C'était 20 ans avant, nous, F1 TV, on pouvait avoir tout ce qu'on veut, les angles, etc.
Bah, il y avait 7 canaux à l'époque avec Patrick Tambay.
Exactement. Alors là, Ilias, il se dit qu'est-ce qu'il va me réserver comme comparaison et tout. Moi, j'avais un ingénieur plein d'ambition, qui n'est pas encore chez une top team, mais tu vois, Racing Bulls, donc un Pierre Vaché.
Ouais, c'est ça.
C'est bien ça.
C'est pas mal. Tranquillement, un petit, peut-être un Laurent Méquies à l'époque. Voilà, tranquillement, on arrive.
Ouais, on verra. Laurent, t'as les cheveux bouclés un peu comme Laurent Méquies.
Bah, exactement.
Moins long.
Ouais, on va les laisser comme
laisser
ça.
Pousser un petit peu, puis tu te teins en blanc et t'es bon.
Allez messieurs, la victoire de Lando Norris, back to back, deuxième victoire de suite à cheval, évidemment avec les vacances, vainqueur en Hongrie avant la pause, et donc vainqueur à Zandvoort, Kimi Antonelli et George Russell, les deux Mercedes complètent le podium. Est-ce que vous avez adoré? Est-ce que Lando Norris peut aller chercher une remontada parce qu'il est très loin au classement des pilotes? Vous allez me dire ce que vous avez pensé de cette course de Lando Norris, plutôt en taille patron. Ensuite, les Ferrari méritaient-elles mieux? On a failli voir un drama, ou en tout cas on a vu de la frustration chez Lewis Hamilton vis-à-vis de Charles Leclerc. Vous allez nous dire ce que vous en avez pensé. L'Aston Martin Marchoff, enfin Fernando Alonso dans les points, c'était pas la première fois, mais belle impression dégagée par l'Aston Martin avec Fernando Alonso, dont on ne connaît toujours pas l'avenir. Jean-Luc, tu nous donneras ton coup de cœur. Et puis en bref, on reviendra évidemment sur l'éphémère course de Max Verstappen et de la performance de nos deux Français, puisque Isaac Hadjar n'était pas là. Lando Norris s'est donc imposé au terme d'une course maîtrisée, 11 secondes d'avance sur Kimi Antonelli qui a longtemps mené. George Russell était derrière, se bataillait pour le podium. Il n'était pas loin non plus de perdre sa troisième place, chassé par les Ferrari, Lewis Hamilton, Charles Leclerc. Oscar Piastri est sixième. Liam Lawson, qui était donc la seule Red Bull engagée après le drapeau rouge et le crash de Max Verstappen juste après le premier tour. Nico Hülkenberg, très belle course aussi pour Hülkenberg avec son Audi 8e. Fernando Alonso 9e, et Pierre Gasly prend un point et rentre dans les poids, Pierre, après avoir longtemps bataillé dans le podium. Jean-Luc, cette deuxième victoire de suite pour Lando Norris qui, eh bien, n'avait pas, en tout cas on l'avait pas vu vainqueur avant la Hongrie. Pour un champion du monde en titre, c'est toujours un petit peu un événement, et là on voit un pilote qui est bien dans sa machine, qui fait vraiment corps avec sa machine et qui a franchement été à piloter comme un champion du monde qu'il est.
Absolument, on en parlait hors antenne, j'allais dire, avant. Moi, il m'a impressionné. C'est même, j'avoue, j'ai la honte de dire que c'est la première fois qu'il m'impressionne à ce point-là. Il avait fait quelques belles courses, mais il ne m'avait pas totalement convaincu. La pole, déjà, hein, il faut le dire. La pole dont il était même moyennement content, disant « j'aurais encore pu faire mieux ». Je me demande s'il n'a pas franchi un cap dans sa tête. Il a mûri. Maintenant qu'il a une monoplace qui lui permet cette année de briller également, c'est un Lando Norris nouveau. Et moi, je ne l'écarte pas de la course au titre, hein, parce qu'il a piqué une place à Charles avec cette belle victoire. Bon, ça fait encore un long chemin.
83 points.
Voilà, ça fait encore un long chemin, mais on en a vu d'autres. Puisque les Mercedes ont l'air d'être un peu moins en forme malgré tout quand même, que les Ferrari, ben, parfois tutoient un peu l'obstacle et trébuchent un peu, ça peut se faire. Et, écoute, il a un mental d'acier, il a un pilotage impeccable. Le pari du seul arrêt, 22e tour quand même, il fait 50 tours hein, sur les hards. C'est très bien joué. Il résiste, il termine avec une belle avance. Moi, bravo.
T'es d'accord, Elias, franchement, il n'a pas tremblé. Il a attendu son heure pour battre Antonelli, malgré, tu l'as dit, Paul. Et encore, alors, un restart, parce qu'on est reparti.
On va revenir dans le
après
détail
un drapeau
après.
Rouge, mais voilà, y a toujours ces départs un peu problématiques chez Lando Norris.
Ouais, totalement d'accord avec Jean-Luc. En fait, l'impression qu'il nous laisse, c'est qu'il fait la saison actuellement qu'il aurait dû faire l'année dernière. C'est-à-dire
c'est
que là,
mal, ça, ouais.
Là il fait, en fait, c'est vraiment le patron de McLaren. Il met une tôle à son coéquipier, que ce soit en qualification ou en course. Et puis même en course, il a une sérénité, une confiance en lui qu'il ne dégageait pas l'année dernière. L'année dernière, on avait un peu cette fébrilité, cette peur de gagner, entre guillemets. Cette année, ben, c'est totalement changeant et on le voit avec sa stratégie. En fait, il voit tout au long de la course qu'il est plus rapide qu'Antonelli où il tient le rythme. Mais il ne peut pas le dépasser, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il se décale et là, il débloque le petit gain de performance pour aller le dépasser. Donc, c'est clairement une course, mais surtout un début de saison qui confirme que Norris est le patron de McLaren. Pour le championnat, en revanche, par contre, j'ai plus de doutes. 83 points, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Mais quand on voit qu'Antonelli, sur un week-end qui n'est vraiment pas favorable, en tout cas qui n'est pas à sa hauteur, il fait deuxième.
Il fait deuxième. Et il prend 23 points avec la sprint.
C'est ça. Hein. Déjà au dernier Grand Prix, on le soulignait, il prend les points. Non, il est très fort. C'est sûr que pour le déloger de là, mais on sait qu'à Monza, il partira dernier, puisqu'ils vont tout changer à tous les coups. Alors après, c'est Monza, il sera chez lui, il peut remonter. Hein, on le connaît dans les points, évidemment, dans les 5, sûrement. Sur le podium, s'il le fait, on
tu
en parlera.
Tu peux être disqualifié parce que Lando Norris évoquait la double disqualification de Las Vegas pour les McLaren qui avait totalement relancé aussi le suspense au championnat. Donc, on n'est jamais à l'abri de cela.
Ou d'un accrochage dans la première chicane ou la deuxième. Enfin bon, ça,
entre
ça dépend coéquipiers,
alors tout le monde n'est pas Williams.
Non, je veux dire, quand on part de derrière, tu vois, il va vouloir tout becter dès le départ. Bon, c'est logique, hein. On va pas faire la course dans deux semaines.
Non. Alors, est-ce qu'il a véritablement la meilleure voiture? Puisque forcément, maintenant que les Mercedes n'ont pas gagné, non, c'est McLaren la meilleure voiture. Lando Norris, en conférence de presse, a été interrogé sur cela. Est-ce que la McLaren est une meilleure voiture que la Mercedes aujourd'hui?
I don't think it's true.
Je ne pense pas que ça soit vrai. Si je n'avais pas dépassé Kimi au moment où je l'ai fait, je pense que je n'aurais pas gagné la course. Pour une fois, je vais m'accorder un peu de crédit. J'ai l'impression de faire du meilleur travail que tout le monde et je pense que ça fait aussi la différence. Nous avons une voiture capable de les battre désormais. Nous avons clairement une voiture très similaire à la Mercedes dans l'ensemble. Je dirais qu'ils ont une voiture plus polyvalente, plus performante dans toutes les conditions. De notre côté, nous sommes plus spécialisés dans la haute vitesse. Vous savez, si je fais une seule erreur en qualification, je me retrouve P3, P4, P5 et je ne vais pas gagner. Et personne ne dirait ce genre de choses. Donc le fait que je fasse simplement du bon travail explique... Je pense pourquoi les gens disent ça. Donc c'est vrai, là, il se met un peu plus en avant. Longtemps, on a dit, là, il dit, à un moment donné, c'est moi le pilote. Alors, on sait que les machines, avec cette nouvelle réglementation, Jean-Luc, sont un peu particulières. Mais là, dans son pilotage, oui, il y a le départ. Mais alors, le reste, c'est d'une maîtrise implacable.
Écoute, c'est un leitmotiv chez les pilotes. Et c'est un petit peu normal de toujours dire, non, je n'ai pas la meilleure voiture. Là, j'ai eu l'impression de l'écouter l'an dernier, quand les McLaren écrasaient tout.
Oui.
Oh, non, on n'a pas la meilleure voiture. Bon, d'accord. Okay, là,
c'est les éléments de Zac Brown.
Voilà, c'est ça, les éléments de langage. Bon, il faut dire comme ça. Alors, c'est vrai qu'il a raison de dire... C'est un peu bizarre. C'est vrai que là, il a franchi un cap psychologiquement. Il se met en avant. Il dit, bah oui, non, c'est moi qui fais la différence. J'ai sûrement une très bonne voiture, mais c'est pas la meilleure. Et c'est mon travail qui a permis d'eux. Et moi, je souscris pleinement. Parce que la pole, il a fallu aller la chercher pour un dixième comme ça. Pas évident. Et puis, bah, la victoire, on en a parlé, avec un dépassement superbe et tout. Il a tendu son heure. Non, c'est un boulot. Et là, lui, il rend alors une feuille de route absolument parfaite et il mérite, il mérite son titre de l'an dernier. Tu vois, je le fais exprès.
Pourtant, Elias, c'est vrai, quand on regarde un peu là, toutes les datas, le pace, c'est-à-dire le rythme moyen en course, les Mercedes sont bien devant. C'est Ferrari qui est même deuxième et ensuite la McLaren de Norris. Donc, il a plutôt raison. La Mercedes semble être encore la meilleure voiture, mais Antonelli... On ne l'a pas senti très à l'aise pendant cette course, du fait d'ailleurs, pour ça qu'il a perdu sa première place.
Bah c'est clair, et Norris l'a dit, je pense que la Mercedes reste quand même la meilleure voiture. Elle est meilleure sur toutes les courses. Et il a très bien dit, la McLaren est très bonne, mais dans certaines spécifications. Antonelli, on l'a senti pas très à l'aise, mais même en n'étant pas très à l'aise, c'était devant. Et au-delà de la meilleure voiture, je pense que ce n'est pas la McLaren qui était meilleure, c'est surtout la bonne stratégie et le bon travail de Norris sur les gommes qui lui ont permis de gagner au final. Donc, si la question est est-ce que McLaren est devant maintenant, non, ça c'est sûr. Mais s'il continue à faire du bon travail, il peut commencer à tâter le terrain et finir dans les premières positions, surtout si on a des Mercedes qui sont un peu fébriles.
Pour vous, Mercedes, le père, ou cette victoire, parce qu'elle semblait quand même assez accessible pour Mercedes, ils se sont arrêtés très tôt. Ils ont eu peur de l'undercut, Jean-Luc. Hein. Ils se sont arrêtés très tôt. Moi-même, je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'ils font au chrono, il n'y avait pas forcément de gros écarts. Ça ne méritait pas forcément d'appeler les pilotes au stand. Et pourtant, ils sont arrêtés très tôt.
Tu as raison. Russell au 18e, Antonelli au 22e. Alors, en même temps que Norris, ou à peu près, Piastri s'était arrêté au 19e aussi. Oui, je pense qu'on a eu un petit peu peur. On s'est un petit peu affolé, peut-être un peu précipité aussi. C'est vrai que ça joue parfois sur un tour, hein, parce que tout dépend de la position de sortie. Là, ils ont tous les simulations pour voir si on passe tant de temps.
Ouais.
Et voilà. Et puis là aussi, les temps au stand étaient très courts. Hein, vous avez vu, de l'ordre de la vingtaine de secondes, parfois moins au total, puisque la voie des stands est vraiment à l'intérieur, facile à engager, facile pour sortir. Donc, je pense, oui, il y a un peu de ça. Il y a petites erreurs cumulées qui font que, bah, au final, et puis une stratégie, encore une fois, appliquée, originale parmi les pilotes les plus rapides, et même, je regardais, mais c'est le seul, hein, ne pas s'être arrêté, avec, pardon, Stroll. Stroll, mais
il
n'a pas terminé. Il n'a pas terminé, voilà. Ouais, non, il n'a pas terminé. Voilà. C'est pour ça que je l'avais au 17e et je n'avais rien derrière. Bah oui, il y a une bonne raison. Donc, je pense que ça dénote aussi un pilotage, une connaissance de sa machine, une exploitation des pneumatiques, qui est toujours la clé en Formule 1, plus que jamais.
Puis revanchard après l'an passé aussi, un
oui.
petit peu.
On sait oui. Il avait fini sur le talus, là.
voilà. Est-ce que Elias, on attend de voir, parce qu'effectivement, 83 points, c'est le retard. Je vous fais le classement des pilotes. Kimi Antonelli, 242 points. George Russell et Lewis Hamilton sont à 183 points, soit 59 points d'écart. Antonelli n'avait que 50 points d'avance sur le deuxième, c'était Hamilton. Donc là, il a accru son avance sur le deuxième. Norris est quatrième, 159 points, donc 83 points de retard. Il a désormais 4 points d'avance sur Charles Leclerc. Il est passé devant. Charles Leclerc, cinquième, 155 points. Et Max Verstappen, évidemment, avec les 0 points, enfin les 3 points quand même de la sprint, mais évidemment avec son crash, il est loin, 112 points. Il est quand même devant Oscar Piastri, qui est à 104 points. Bon, 83 points, c'est beaucoup. Forcément, il devra gagner des courses, il devra compter sur des Mercedes qui doivent clairement avoir un gros trou, Ilyès, parce que là, pour l'instant, même on le voit au classement des constructeurs, tout va quand même bien chez Mercedes. Hein.
Bah, c'est clair, le problème, c'est que pour rattraper 80 points, il faut une deuxième partie de saison de Mercedes quasiment catastrophique, en tout cas avec des grosses erreurs, des DNF, voilà, des problèmes mécaniques, des crashs. Et il faudrait aussi que McLaren soit impérial. Ce qui pour l'instant n'est pas le cas. En fait, même McLaren était très performante sur ce circuit, mais ça se trouve qu'à Monza, la Ferrari sera peut-être devant la McLaren et devant la Mercedes. En fait, le problème, c'est que Norris ne peut pas gagner toutes les courses qu'il reste parce qu'il y a les Mercedes, il y a les Ferrari qui sont en embuscade, il y a les Mercedes qui restent dominantes et il est là le souci, je pense. C'est-à-dire que même si Antonelli se loupe, pour que Norris marque les gros points à chaque fois, il va soit falloir une performance hors du commun, soit un développement, mais très très bon. Ou alors vraiment que tout le monde derrière se loupe, mais ça c'est très peu probable. Donc ça va être compliqué quand même de rattraper 83 points. Pardon.
Oui, bon, on fait simplement des mathématiques, il reste 11 courses, c'est grosso modo 8 points à
peut-être,
reprendre par
peut-être
course.
11.
Oui, peut-être 11. Effectivement, il y a Bahrain et Qatar et Arab Unis, mais bon, il y a visiblement des plans, on se tient prêt. Mais évidemment, l'écart est quand même énorme, Jean-Luc. Oui. On a vu des rebondissements, on ne sait jamais.
L'an dernier, on a vu effectivement, à partir de Monza, j'y reviens, hein, entre les équipiers, bah, on a vu ce qui s'est passé. On a vu la remontée météorique de Verstappen, quand même, qui jouait le titre. On ne s'attendait pas du tout à ça, après un début de saison qui était compliqué. Il y a tellement de paramètres, et puis les écarts sont tellement réduits, on le dit à chaque fois, tellement réduits, qu'il suffit peut-être d'une petite erreur stratégique, on est en train d'en parler à propos du déroulement de la course, d'un pilote qui n'est pas... il y a le coup de vent au mauvais moment, au mauvais endroit, enfin tu vois, la voiture déstabilisée. Antonelli nous fait ses résultats en nous disant bah, « j'étais moins bien là, c'est vraiment la course, j'ai pas senti la voiture, j'étais pas bien ». Encore une fois, on peut le croire. Hein. Donc, si les autres progressent, et comme l'a dit Toto Wolff, il dit en développement, on n'est pas bien pour le moment. Les autres font mieux, notamment McLaren, Ferrari aussi quand même, globalement. Donc, J'aime à penser que c'est pas joué.
Tiens, place au Ferrari, justement, Jean-Luc, au pied du podium. Tiens, justement, les Ferrari au pied du podium. Lewis Hamilton qui a dépassé Charles Leclerc après une bataille, on va dire, un petit peu bizarre où il y a eu des commandements radio. Bon, Jean-Luc, ce qui était assez étrange, c'est qu'on a vu ses pneus durs marcher formidablement bien. Charles Leclerc était en médium devant Lewis Hamilton. Et alors, on s'est un petit peu frité, ou en tout cas, demande d'Hamilton, je suis plus rapide, ce qui était vrai, que Charles Leclerc, qui avait une stratégie pour aller chercher Russell. D'où Charles Leclerc dit, bah ouais, mais bon, on me demande de laisser passer Lewis et tout. Alors, Ferrari a fait, finalement, ils ont décidé de ne pas trancher, je ne sais pas comment tu as perçu ça. Ils ont dit à Leclerc, arrête-toi. Alors, il ne s'est pas arrêté au premier tour, il s'est arrêté ensuite. Ouais. Mais plutôt que de dire à Charles Leclerc, laisse Lewis te dépasser, on a préféré l'arrêter. Finalement,
vieille méthode, je dirais, on l'a vu dans le passé dans pas mal d'écuries. Ben, quand le pilote, apparemment, n'y met pas de la bonne volonté, on peut le comprendre aussi, c'est toujours pareil. Hein. Nous, on analyse ça, on est dehors, on dit il faut faire ci, il faut faire ça.
On n'est pas dans la voiture.
C'est très facile. Quand on est dans la voiture, quand on sont quand même des sportifs de haut niveau, quoi qu'on en dise, ils sont à 150% tout le temps, hein. Ils sont comme ça. Ils n'ont pas la vision globale que peut avoir l'écurie ou que même nous, modestement, on peut avoir. Et puis, ils défendent leur place bec et ongles. C'est des acharnés, ils ont mordu le morceau, ils ne veulent pas le lâcher. Donc Charles, il dit, bah oui, vous êtes gentil, mais bon, c'est un circuit où on ne dépasse pas, on n'est pas sur la même stratégie. A priori, on va alors donc il fait un peu la sourde oreille. Il fait on va y venir. Russell a fait pareil hein, au début quand on lui a dit tu vas laisser passer Kimi à la fin. Il est voilà pendant 2-3 tours. La radio marchait pas bien donc il y avait des parasites. Donc là, c'est un peu pareil. Donc effectivement, dans ce cas, on dit bah tiens, arrête-toi. Bah oui, alors c'est vrai que la stratégie aussi était différente, divergente, puisque on avait monté au 26e tour les durs à Lewis
et au 22e soft, pardon, tour. C'est ça, c'est en soft quand ça
voilà.
Se passe
au 22e
plus rapide en soft qu'en médium.
Oui, alors ça c'est après. Mais je parlais du coup d'avant, du stint d'avant, comme on dit. 22e tour, Charles a les médiums et il fonctionne moyennasse, hein, oui. dirait Vincent. Donc du coup, oui, le rendement global de la monoplace est bon, mais pas terrible. Et puis effectivement, alors après, il y a les surarrêts à la fin avec le safety car, le virtual safety car.
Qui permet à Lewis de revenir, mais qui avait un rythme fou.
Mais il était dedans. Alors, c'est ça qui est très curieux. Et c'est ça qui nous rend aussi, à nous, les pronostics difficiles. Hamilton, rappelez-vous, en début de week-end, il n'était pas terrible. Il n'était pas bien. Il n'était pas trop content de la voiture. Et puis, en course, à un moment, ça fonctionne. Ça dépend de tellement de paramètres. J'y reviens encore une fois. Alors qu'ils savent ce qu'ils font. S'ils ont maintenant... l'osmose est parfaite avec l'équipe, avec son ingénieur. Quand il demande une amélioration, un réglage différent, il l'obtient. Et il y a des phases de course. Alors ça, c'est pareil, en fonction de l'adhérence également générée par la piste, en fonction de l'équilibre de la monoplace, en fonction... Voilà, donc effectivement, il était plus rapide. Et pour revenir à ta question, oui, on a préféré arrêter Charles en disant, écoute, tiens, on va faire autre chose.
Et Lewis Hamilton, Ilias, qui... Voilà, dit j'ai perdu quand même des dixièmes précieux derrière Charles Leclerc et à un moment donné, alors, tout le monde, hein, après la course, on va entendre Lewis Hamilton dans un instant, un petit peu temporisé parce que c'est normal, ça arrive et ça arrivera, mais voilà, on a senti quand même un peu de flou chez Ferrari, on était un peu embêté de la situation.
Bah, c'est clair, niveau Ferrari, c'est sabotage sur sabotage, parce que sur ce moment clé de la course, Ferrari finit 4 et 5, ce moment clé peut finir 2 et 4, s'il est bien géré de la part de Ferrari. Parce qu'en plus, sur le pit stop après Virtual Safety Car, il me semble que Hamilton n'est pas très loin d'Antonelli.
Oui.
Il ressort 2 secondes derrière Antonelli.
Oui.
Et ces 2 secondes-là, c'est justement, elles sont là, les 2 secondes. Et quand on sait à quel point Zandvoort, c'est difficile de dépasser, il y avait peut-être une deuxième place à chercher pour Hamilton. Et la clé pour Leclerc, on l'a vu, c'est comme ça qu'il a dépassé Piastri et c'est comme ça qu'il voulait dépasser Russell, c'est qu'il se décale à chaque fois sur les gommes pour avoir des gommes fraîches et pouvoir avoir ce capital gomme pour aller dépasser. Et au final... Tu fais perdre la place à Hamilton ou tu fais perdre la stratégie à Hamilton parce que tu lui fais perdre 2-3 secondes derrière Leclerc. Et Leclerc, tu lui ruines sa stratégie puisqu'au final, il ne se décale pas. Comparé à Russell, au final, il a 3 tours de différence. Ce n'est pas grand-chose. Et bien, juste Ferrari a ruiné sa course. Et quand on voit aussi le rythme qu'avait Leclerc sur la sprint et le rythme qu'ils avaient même en course,
en soft en plus.
C'est dommage.
Ouais.
Donc, gâchis.
Gâchis, oui. Alors, le mot est toujours un peu fort. Hein. Fred Vasseur nous dirait non, attendez, on est acheté quand ça. Bon, c'est pas misérable ce qu'ils ont fait. Effectivement, ils auraient pu faire mieux, 2 et 4, oui, ça c'est sûr. Maintenant, le problème, et j'y reviens, même si on ne nous le dit pas chez Mercedes, c'est quand on a un premier pilote et un deuxième pilote, c'est beaucoup plus facile d'appliquer des stratégies. Chez Ferrari, on n'a pas de premier, on n'a pas de deuxième. Eh ben, on doit les traiter à parité, à égalité, et il y a des situations où c'est bien compliqué, donc on les arrête.
C'est Lewis Hamilton au micro de Sky Sports F1 après la course. Aujourd'hui, c'était vraiment une journée frustrante pour moi. Je suis là pour gagner. Je crois vraiment que cette équipe peut gagner. Même si nous ne pouvions pas gagner cette course, pour gagner les championnats, il faut prendre chaque point. Les dernières courses ont été difficiles avec les pénalités et tout le reste. Et puis aujourd'hui, j'ai perdu plusieurs secondes derrière Charles, ce qui, je pense, au bout du compte, a probablement fait la différence. Mais on va régler ça en interne. Et vous savez, mon objectif est d'essayer de mener cette équipe vers les sommets, vers le championnat. Et nous avons du travail et du pain sur la planche, c'est certain. Bon, c'est normal, ça existe, mais... Ouais, grosse frustration, parce qu'on sent que cette Ferrari, elle en a. Alors, il y aura des améliorations qui vont arriver à Monza dans 2 semaines, Jean-Luc, notamment au niveau du moteur. Mais...
Tiens, c'est une surprise, un moteur Ferrari à Monza qui marche fort.
Oui, je crois que j'ai
ça,
jamais
c'est
vu,
une
hein.
grande nouveauté. J'ai vu, tu souris.
Mais, oui. Mais ouais, il y avait quand même de quoi mettre un pilote sur la boîte.
Oui. Ah ben, indubitablement, oui. Et a priori, c'était Lewis hein, qui, globalement, avait l'air... En tout cas, ce qui compte, c'est la fin de la course, puisqu'on peut tout changer, mais on peut aussi prendre la situation et se dire, bah oui, le temps qu'il a perdu derrière, quand on voit qu'il termine sur les talons vraiment de Russell, oui, il aurait dû être sur la boîte. Et peut-être devant Antonelli, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais c'est clair qu'on aurait pu en mettre un. C'est des gros points, là, hein, quand même, les écarts. C'est tout de suite rapide. Hein, c'est 3 points entre la 4 et la 3, et 3 points encore entre la 3 et la 2. Donc, même au championnat constructeur, ça fait beaucoup. Écoute, bon, on va dire qu'ils n'ont pas été impériaux. Ils ont été embarrassés, c'est le mot, par la situation. Ils ont hésité 2 tours, c'est pas beaucoup non plus. Et oui, c'est beaucoup.
Circuit où tu as du trafic partout au bout d'un moment.
Oui. Non, mais je suis d'accord. Ils n'ont pas. Bah, enfin, Fred, là aussi, qui est toujours d'une franchise absolue, va pas nous dire qu'il a été parfait sur ce coup-là. Qu'ils ont été parfaits. C'est pas lui qui décide, hein, encore une fois, mais que les stratèges n'ont pas eu la vista, ou surtout, ils n'ont pas osé dire à Charles, bon, écoute, c'est comme ça, terminé, quoi, que ça te plaise ou pas. Donc, quand on voit qu'on tiraille et que ça aurait pu être pire, parce que s'il était resté en piste devant à toute force en jouant des coudes, on peut tout imaginer. Et donc, bon, on l'a arrêté.
Frustration, Ilyes, parce que Ferrari nous avait habitués à avoir au moins un pilote sur la boîte récemment, presque à chaque Grand Prix. Mais là, alors, 2 circuits similaires, Hungaroring, le tourniquet hongrois, quand même, aime à l'appeler Jean-Luc, et Zandvoort, où c'est pas évident de dépasser, il y a beaucoup de virages rapides, il reste, encore une fois, comme en Hongrie, au pied du podium.
Et ouais, c'est clair, et il y a surtout 2 facteurs qui sont très frustrants chez Ferrari. Le premier, c'est les qualifications. Parce que quand on voit le rythme qu'ils peuvent développer sur une course entière, partir aussi loin, c'est toujours gênant. Et on le sait, je pense que Leclerc, sur le deuxième restart, passe Russell avec ses gommes tendres au lieu de se faire dépasser par Piastri. À mon avis, il a la capacité de s'envoler avec Antonelli et Norris, peut-être pas de jouer avec eux, mais en tout cas de jouer pas très loin d'eux. Donc, premièrement, c'est les qualifications. Et le deuxième point, c'est la course, la gestion de course. Il y a un précédent qui est Barcelone. Hamilton revient sur Leclerc. Leclerc se roche sur le côté. On lui dit « laisse passer, t'es pas sur la même stratégie ». Leclerc se roche sur le côté et Hamilton gagne un temps précieux. Et ensuite, avec la Virtual Safety Car, il ressort, à mon avis, moins d'une seconde devant Russell. Ben là, le problème, c'est que ça a joué en défaveur d'Hamilton. Et quand on a ces précédents et qu'on voit qu'à chaque fois qu'on veut jouer les coudes, ou en tout cas qu'on sort les coudes côté Ferrari, et ben ça pénalise Ferrari, je pense qu'il doit y avoir quelque chose, une discussion interne pour dire, bon les gars, premier, deuxième pilote, on ne sait pas, voilà. Mais quand on doit privilégier Ferrari... Ben, on met les égos de côté et on se rend sur le côté.
Parce qu'au final, l'option, c'était 8 secondes seulement de perdu pour un arrêt au stand sous Virtual Safety Car ou Safety Car. Et c'est vrai que Lewis Hamilton, dans sa stratégie avec ses ingénieurs, il s'était ouvert une belle fenêtre et ils l'ont eu au moment de la panne d'Esteban Ocon qui s'est immobilisé sur le côté. Et ça a failli être vraiment gagnant, quoi.
Bah oui. Ça, c'était autour du 55e tour, voilà, pour Ocon et fin du VSC au 58e. Bien sûr, là, y a des belles secondes à récupérer gratuitement, hein, j'allais dire. Il suffit de s'arrêter au bon moment. Enfin, il suffit d'être encore en mesure de s'arrêter parce que là aussi, hein, et puis enfin, il y a ce choix de remettre des softs pour les deux. Et là, effectivement, on voit tout de suite que Lewis aussi, hein, sa monoplace est plus efficace que celle de, c'est incroyable, que celle de Charles. On se demande pourquoi. Enfin, je présume qu'il y a des raisons qu'eux connaissent, peut-être des réglages différents, peut-être, j'en sais rien. Alors qu'en plus, Charles, la veille, dans la sprint, a une voiture très performante en soft et l'emmène longtemps. Alors, c'est à n'y rien comprendre. Enfin, même eux, j'imagine que des fois, ils ont beaucoup de mal à expliquer rationnellement les choses et à trouver la raison pour laquelle il se passe ça.
Même si potentiellement, tu te dis, s'il y avait trois tours de plus, Lewis Hamilton était juste derrière George Russell. D'ailleurs, oui. Ça a été un peu chaud parce que Charles aussi, ça s'est vraiment suivi. On a eu une bataille là dans le dernier tour qui était assez intense.
Oui, après, j'ai revu le onboard de Leclerc. C'était pas aussi impressionnant qu'on l'a vu à la réalisation. C'est-à-dire que c'était pas vraiment collé-collé. Maintenant, bon, bah, c'est une petite bataille entre pilotes. Il n'y avait rien d'essentiellement dangereux. Bon. Moi, ça ne me choque pas tant
non,
que
ça. Bah. Ça, ce n'est pas les Williams où là, Carlos Sainz...
Malheureusement, ce n'est pas leur genre à tous les deux.
Les rues.
C'est ça
non,
terrible,
on a bloqué les roues.
Bah, oui. On devrait peut-être faire une petite minute terroriste pour Carlos Sainz parce que le catalogue commence à devenir long. Là. quand Leclerc sort des stands et qu'il y a devant la bataille, je pense que c'est Lynn Blind Sainz,
c'est ça.
Juste devant lui, et je me dis, attention Charles, soit tu perds du temps...
Sois prudent.
Ouais. Soit tu perds un aileron, mais fais attention.
Attends, il a prolongé, il n'a pas raison d'être... tremblant, notre ami Carlos Sainz. Allez, on va parler d'Aston Martin. Pour une fois, on va en dire du bien. Parce que Fernando Alonso était tout au long de cette course dans les points. Il termine 9e. L'AMR26 a surtout montré de réelles améliorations. Jean-Luc, Lance Stroll, c'est évidemment un peu plus compliqué. Il n'a d'ailleurs pas terminé. Mais là, on a vu Fernando Alonso être bien dans la voiture. Elle ne faisait pas n'importe quoi. Et on a même vu Alonso, je crois qu'à un moment, je regardais les speed traps. Dans le deuxième secteur, c'est lui qui allait le plus vite et qui était même dans certains virages, je ne sais plus si c'est le 7 ou le 10, était un des plus rapides. Bref, on a enfin une voiture qui semble convenir aux pilotes, en tout cas une voiture compétitive, Jean-Luc.
Tout à fait. Bah, écoute, les améliorations apportées depuis la Hongrie, bien évidemment, il y en avait d'autres de nouvelles ici. Le moteur Honda, malgré tout, même si les pilotes n'ont pas été extraordinairement élogieux à ce sujet en disant oui, mais il ne délivre pas, il n'est pas assez doux, il n'est pas... On dit aussi que... Pour le moment, pour privilégier la fiabilité, eh bien, il ne délivrerait que la moitié de la puissance dont il serait capable. Enfin, là aussi, tout ce qu'on estime. Enfin, on a parlé de 30 chevaux au maximum, il n'en aurait que 15 pour le moment. Donc, ça fait quand même aussi une sacrée différence. Surtout à Monza, je pense que là, ils auront tout, hein, parce que là, c'est quand même important. Donc, c'est une amélioration globale, c'est un step supplémentaire. Et je pense que ceci explique également les raisons pour lesquelles Fernando n'a pas apporté sa décision, même à l'écurie pour le moment, en disant « j'attends de voir ». Si cette amélioration se poursuit, à mon avis, ça va vraiment lui donner envie de rester et de continuer. C'est une question d'envie. Hein. Au niveau où il en est, c'est vraiment une question d'envie, continuer à rester en Formule 1. Il l'a dit, c'est quand même la catégorie que je privilégie. Pour moi, c'est vraiment le sommet du sport automobile. Et il a touché à tout. Donc, c'est pour ça qu'il faut l'écouter, en tout cas pour lui. Bon, il a 45 ans, certes, mais comme il dit, à l'arrivée, il a cité, je crois, Bahreïn ou je sais plus quel Grand Prix il y a 2 ans, où tous les pilotes étaient littéralement liquéfiés, morts, etc. Et lui, moi, ça allait très bien.
Chaleur, ouais.
J'ai répondu aux questions et j'allais impeccable. Je suis en pleine forme. Qu'est-ce que vous me dites là? Bon, donc voilà. Mais pour en revenir à Aston, bah, ça fait plaisir parce que moi, ça me faisait mal au cœur pour Fernand et mal au cœur pour Adrian Newey aussi et pour toute l'équipe avec toute l'énergie, tout l'argent. Mais ça, je m'en fous, c'est le résultat qui compte. Toute l'énergie dépensée, toute cette refonte de l'écurie, les voir comme ça, c'était presque caricatural. Ça fait du bien de les retrouver dans le ventre dur de la Formule 1.
Tiens, juste avant de t'entendre, Ilias, on va écouter Fernando Alonso sur les améliorations apportées à cette Aston Martin.
Yeah, definitely on the chassis. I think we brought more new parts.
Oui, clairement du côté du châssis, je pense qu'on a apporté de nouvelles pièces ici. Et en course, la voiture était très facile à piloter, très économe sur les pneus. C'est vraiment un point positif. Tout ce qu'on apporte sur le châssis apporte de la performance sur la piste. Côté moteur, c'est plus difficile d'évaluer car on n'a pas de comparaison directe avec la voiture d'avant. On est dans les points, donc il y a peut-être plus de puissance à exploiter. Mais sur la joie, fiabilité du moteur, on doit encore progresser pour retrouver la régularité qu'on semble avoir perdue avec cette évolution. Bah, c'est vrai que côté châssis, j'ai vu quelques onboards de Fernando Alonso. Ah, c'est fini de la maintenir la voiture en place sur la piste. Là, elle était agréable à piloter. On a senti qu'il a pris beaucoup de plaisir avec ce déficit moteur qui reste pour l'instant latent.
Bah, j'ai vu ce clip en plus ce matin, le dépassement d'Alonso, c'était sur une Williams, je ne sais plus laquelle. En fait, il fait ce qu'il veut de la voiture. Le châssis, il peut diriger ses lignes de course, aller plus large pour ensuite gagner de la vitesse. Il fait ce qu'il veut de cette Aston Martin. Et tu le sens qu'il retrouve de la confiance. Au-delà de la confiance, c'est surtout un motif d'espoir en fait, pour l'année prochaine. On s'est loupé sur le développement. Enfin, en tout cas, on s'est loupé sur les bases de cette Aston Martin. Maintenant, on a retrouvé une Aston Martin qui est capable de se bagarrer pour les points et surtout une Aston Martin qui est conduisible, entre guillemets, pour Fernando Alonso. Et ça, je pense que c'est le plus gros point. Après, il l'a dit très tôt dans le week-end, quand tu as 3 secondes de retard, les 2 premières secondes, c'est les plus faciles à récupérer. Mais par contre, pour aller grappiller des dixièmes dans la dernière seconde, là, ça va être plus dur. Et là aussi, ça va peut-être nous avoir plus de perspectives sur l'avenir et sur ce qu'il décide de faire.
Surtout pour revenir sur la voiture Jean-Luc, Zandvoort a évidemment un circuit particulier avec toutes ses courbes, ses virages inclinés, banquiques. On a vu beaucoup de voitures survirer et la Aston, moi j'ai pas d'image de la voir en sortie de virage, avoir un peu de survirage.
Moi non plus, pas le fameux snap qu'on voit parfois que les pilotes, même les Max, Verstappen, à chaque fois il est comme ça et il le dit, oh là là, j'ai eu du mal à la rattraper. Non, tu as raison. Et ce que disait Ilias est important aussi, il en fait ce qu'il veut. Et il a retrouvé, je pense, le plaisir de piloter qu'il n'avait plus depuis le début de la saison, c'est une évidence. Il essayait de gérer, comme on dit, mais à un niveau tellement infâme, tellement immonde qu'il avait même peut-être plus envie de se dépouiller totalement. Et c'est normal, tu sais, ça joue à pas grand-chose. Là, quand tu disposes d'un engin qui répond à tes sollicitations, qui répond aux modifications de réglage également, et tu recommences à retrouver, on va retrouver le vrai Fernando, quoi, celui qu'on aime, c'est-à-dire celui qui a l'agnac, où qu'il soit. Et puis là, il va avoir fort à faire, même si, la cause est perdue pour cette saison. Et encore, c'est jamais perdu. En Formule 1, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais je veux dire, ils vont encore grignoter et ils vont peut-être arriver au niveau des Racing Bull, des Alpines, se battre avec tous ces gens-là et peut-être plus y affinité, peut-être juste au-dessus, pour être juste devant le... On ne sait jamais, il y a tellement à gratter, effectivement.
Écoute, les 3 points inscrits au champion du monde des constructeurs l'ont été par Fernando Alonso. Ça pédisse son point à Monaco. Et donc là, 2 points de la 9e place. Tu as Williams qui est à 11 points, 8 points. Tu peux aller les chercher. Éventuellement Audi qui est à 16 points. Voilà, ça fait partie du championnat où on ne retrouve pas Alpine qui est quand même beaucoup plus haut. Ça évidemment, ça nous fait plaisir grâce à Pierre Gasly.
Je parlais sur le terrain. Je ne parlais pas forcément du championnat en disant ils vont les rattraper. Oui. Là, le classement, c'est autre chose. Mais je veux dire, au niveau des résultats, s'ils se qualifient déjà régulièrement ou au porte de la Q3 ou en Q3, c'est-à-dire 10-12, ça change tout.
Mais puisqu'on parlait sous au début avec Bernie Ecclestone, je regardais évidemment ce champion des constructeurs parce que la moindre place est évidemment très importante pour les sous, même si chez Aston Martin et Lawrence Stroll, patron, c'est pas un souci. Je me disais, ne jamais sous-estimer Adrian Newey parce que évidemment la voiture, il y a eu un problème, l'intégration de ce moteur Honda, on a parlé aussi beaucoup de ses vibrations, il n'y avait pas forcément que le châssis aussi, il y avait tellement de nouveautés pour Aston Martin outre la nouvelle réglementation.
C'est clair que le châssis Honda, le moteur Honda, faut l'intégrer. Quand on voit McLaren, les difficultés, une écurie comme McLaren qu'ils ont eu pour intégrer ce fameux moteur Mercedes, on peut comprendre qu'Aston Martin, à leur échelle, ont aussi eu des grosses difficultés. Et là, par contre, là où on a vu une grosse évolution sur le châssis, c'est le fameux dépassement sur la Williams à Zandvoort. Tu la compares avec la bataille Stroll-Alonso à Silverstone. Franchement, tu vois les deux, il n'y a pas photo.
Mais c'est pas la même voiture.
Elle a gagné en stabilité, elle a gagné en motricité, et c'est tout ce que demande Fernando Alonso. Et un Fernando Alonso qui est en confiance avec sa voiture, c'est des points à aller chercher.
Et à noter son magnifique premier relais, plus de 30 tours en soft.
Incroyable.
J'étais là devant mon écran,
mais il va faire la course.
Il était 7e, 8e, crois.
Incroyable.
Bon, il fallait changer parce que les temps, il perdait 2 secondes sur tout le monde. J'étais là, je crois qu'il était en 1.17. Je fais Nando, faut rentrer.
Il faut y aller.
Voilà, vous voulez évoquer Aston Martin parce que ça nous a donné le sourire de voir Fernando Alonso. On aurait pu parler aussi d'Audi avec Hülkenberg qui fait une très belle course. Puisqu'on parle des anciens...
Elles sont là, les Audi. Alors, un réflexe incroyable pour éviter le crash, pour éviter Max. Là, lui et Pierre... C'est incroyable, réflexion, incroyable, bon, faut un peu de chance aussi, hein, parce qu'il ne voyait rien. En plus, il y avait un nuage de fumée, c'est ahurissant, et il choisit la bonne option, bon, heureusement, parce
pour
que sinon,
monde,
il,
oui.
le prend, il le prend T, là, c'est, ça fait mal. Ouais. Non, ouais. Super, écoute, là aussi, Hülkenberg les points, peut-être... Tout à l'heure, on dira un mot de Lawson, malgré tout. Je
pense. Bah, vas-y maintenant. Bah, vas-y, bon,
allez,
maintenant,
on y va.
Avant ton coup de cœur.
Bah, moi, j'ai trouvé convaincant. Là, c'est pareil. Hein, parce que la pression qu'il avait quand même se retrouver dans l'équipe qu'il a jetée après deux Grands Prix la saison dernière. Bon, heureusement, il a mis son mouchoir par-dessus. Et là, tout le monde l'a dit, il a mûri terriblement. De toute façon, un coup comme ça, ou ça te tue, ou tu en sors plus fort. Hein, c'est comme le reste. Donc là, il en est sorti plus fort. Il a fait une saison finalement correcte en fin de saison dernière. Là, il est au niveau de Lindblad, enfin, et plutôt un peu devant, mais pour moi, c'est un redoutable compliment, parce qu'encore une fois, Lindblad, c'est une pépite, je le dis à chaque fois. Donc, il se retrouve dans le baquet d'une voiture qu'il n'a pas conduit du tout, avec la pression énorme, et en plus, il se retrouve tout seul pour défendre les couleurs de Red Bull. Bah, c'est facile de commettre une erreur, hein, dans une course aussi chaotique, aussi erratique. Bah, il fait le boulot. Eh bien, il ne peut pas faire mieux que ça. Hein. On a bien compris dès les qualifs que là, les Red Bull n'y étaient pas, puisqu'il se retrouve, j'ai omis ça, à un dixième en qualif de Verstappen. C'est rien. Donc, bah voilà, donc bravo Lawson. Lui aussi, il est dans les bons cartons.
Même si on espère un retour rapide d'Isaac Hadjar, Laurent Mekies, ce n'est pas montré foncièrement inquiétant. Ilyes, mais bon, blessure au poignet, on en parlait avec Jean-Luc... jeudi dernier pour la présentation de ce Grand Prix des Pays-Bas. On ne sait jamais, mais bon, là, avec Monza, il y a quand même deux semaines aussi.
Oui.
Bon.
Ouais, pas mal de repos. Je pense qu'un peu de repos, ça lui fera du bien. Et pour moi, Monza, qui n'est pas un circuit vraiment contraignant pour les poignets, je pense que ça devrait le faire. En tout cas, j'espère que ça va le faire.
Oui, voilà, c'est...
Il faut savoir ce qu'il a exactement. On n'a pas eu de diagnostic, enfin, on ne sait pas. On n'a pas eu le verdict médical. On se rappelle de Stroll, hein, qui avait une fracture, lui, à vélo. Plus grave, semble-t-il, en tout cas au départ, avec opération et tout, etc. Même broche, je crois, à un moment, au début. Et il a piloté très vite, hein, donc il faut y croire.
Allez, place à ton coup de cœur, Jean-Luc.
Oh yes, ladies and gentlemen, now we are...
Il faut arrêter la Formule 1, parce que ça ne sert à rien.
Après, il s'est lancé dans une remontée vraiment... À couteau ouvert.
Des moteurs de trottinette ou de tondeuse à gazon.
Mais écoute, s'il n'est pas gonflé comme une pendule. Là.
Et la queue du Mickey au rétroviseur aussi, t'es d'accord?
C'est donc la fin de Zandvoort. J'ai envie de vous dire encore, puisque le circuit était au programme dans les années 80 jusqu'en 85, où Niki Lauda s'était imposé pour la dernière, revenu en 2021. C'était prévu normalement en 2020, mais il y a eu le Covid, et donc revenu en 2021, évidemment aidé par la nationalité de Max Verstappen. Et donc le circuit n'est plus en contrat avec la FOM, Jean-Luc. Évidemment, on peut qu'être déçu. Un, parce que c'est un circuit incroyable avec les dunes. Le tracé court, et puis c'est le pays de Max, et quand on a un tel champion, ne pas le voir concourir dans son pays, on est toujours un peu déçu.
Absolument, pour toutes ces raisons-là, Arnaud, tu as bien raison, et puis j'en rajoute une, c'est que malheureusement, une nouvelle fois, c'est uniquement l'argent, et c'est ça qui me désole, que en Formule 1, tu évoquais Bernie à plusieurs reprises et Ekelson, qu'on soit là pour gagner de l'argent, c'est normal, moi ça ne me choque pas, c'est une économie qui est basée là-dessus, donc il n'y a pas de souci. Mais que ce soit le seul critère, c'est ça qui m'importe. Or là, c'est un succès phénoménal. D'abord le public, 335 000 je crois, sur les 3 jours, donc un succès colossal. Un public enthousiaste, tu l'as évoqué, d'abord parce que ils ont été frustrés de Formule 1 pendant 35 ans, 36 ans. Donc là, ils revoient, moi je me rappelle des Grands Prix d'avant, hein, qui étaient très dangereux parce que la piste était encore plus resserrée avec... Enfin, il y a eu des drames, malheureusement. Mais ça, on va pas parler de ça. Il a bien évolué, ce tracé. On a fait l'option. C'est de banking. J'avoue que j'étais un petit peu sur la réserve au début. Et puis, en fait, ça fonctionne bien, je trouve, hein, le virage 3 et le virage 14. Sauf quand c'est un peu humide à l'intérieur, c'est un autre débat. Donc, comme tu l'évoquais également, Max qui va être là jusqu'en 2030 maintenant, donc ça fait encore 5 belles saisons, et malheureusement, le public ne pourra plus. Alors je sais, ils se déplacent, les Hollandais, ils vont beaucoup en Hongrie depuis très longtemps, en Autriche, etc. Mais Enfin, perdre, on sait ce que c'est en France. Hein. Perdre un Grand Prix national, c'est quand même pour moi un drame. Et c'est une marque. Qu'est-ce qu'on récupère le Madring ou je ne sais quoi, alors qu'on ouais. avait déjà Barcelone. Enfin, tout ça, c'est des coups de bolto. Alors, je suis navré que je l'évoquais également dans les GG du sport où le débat était là-dessus, enfin, sur les circuits historiques que l'on perd. Et le problème, si tu veux, c'est que c'est pas par goût, comme toujours, du passé, pour dire « Ah non, on touche à rien, on change rien ». Si c'était pour un très beau circuit, formidable, bien étudié, pourquoi pas ? Mais priver une nation comme ça d'un Grand Prix national, alors qu'on a un pilote qui est encore toujours potentiellement dans les champions du monde, qui est soutenu par tout le pays, je trouve ça lamentable, quand la raison, c'est uniquement pour des raisons financières. Et je le répète, à l'époque, il y avait un équilibre. À l'époque, entre Bernie Ecclestone, la FOM ou la FOCA à l'époque, et puis la FIA. La FIA qui faisait contrepoids, qui défendait le sport. Je vous laisse la conclusion aujourd'hui.
Toi, Elias, t'es déçu de voir Zandvoort disparaître du programme ?
Bah, clairement, très déçu. Et Jean-Luc l'a bien dit, c'est... En fait, il disparaît, mais pour gagner quoi au final ? Quand on voit que Zandvoort est éloigné et que c'est le Madring... Qui récupère
ça
le.
Ça promet quand on voit les images. Mais c'est asphalté visiblement.
Oui, ils ont mis du goudron, c'est déjà pas mal.
Très mais forcément c'est effrayant. Zandvoort, c'est un circuit traditionnel, c'est un circuit historique. Tout le monde aime rouler là-bas. Le perdre, c'est catastrophique.
Comme Imola. Hein.
Et puis, faut écouter encore, les pilotes, pardon. Les pilotes sont tous pour, même ceux, toi, Norris a dit, oh, c'est un désastre.
Imola, c'est gênant, mais les Italiens ont Monza. Là, oui. les Espagnols, bon, ont perdu Barcelone, mais qui était un meilleur circuit, récupèrent le Madring. Bon, avoir plusieurs grands prix en Espagne, autant en laisser un aux Pays-Bas, quoi.
Après, il y a le retour du Portugal.
Oui, alors en remplaçant, hein, toujours pareil. Hein, oui. Ils sont, on les appelle.
Portugal-Turquie remplace voilà. Zandvoort.
Voilà. Le Portugal, c'est un beau circuit. Voilà un circuit récent qui est magnifique, hein, oui. Vraiment qui est intéressant. Il y a rien à dire
du
là-dessus.
Dénivelé.
Non, mais encore une fois, les choix sont uniquement des choix financiers, puisque maintenant, pour avoir un Grand Prix, il faut mettre 50, 60.
Ticket d'entrée. Hein, je te donne 50 et tu m'autorises à l'organiser.
Tu veux en faire un dans ton jardin, tu peux en avoir un. C'est 50. Alors ça peut être 60 ou 80 pour certains pays qui, eux, pour eux, l'argent ne compte pas. Donc pourquoi pas, demain ça va être 100 et c'est formidable. Non mais si tu veux, il y a un moment où il faut décider si ce championnat de Formule 1 doit rester un sport avec quelques bases sportives ou bien si c'est un show. Si c'est uniquement un show, alors là, bah, allons-y, le Mario Kart, tout ce qu'on veut, les dépassements yo-yo et tout le reste, pourquoi pas ? Mais je pense que les gens que ça peut attirer ponctuellement, parce qu'ils disent « Ah ouais, tiens, c'est marrant, il se passe des trucs », ils ne resteront pas, parce qu'ils resteront, ils sont attirés par la lumière, mais ils n'ont pas, et ils peuvent l'acquérir, hein, c'est pas pour les exclure, mais ils n'ont pas la culture du sport déjà, de ce que c'était. Et une nouvelle fois... Au final, il faut des circuits qui permettent aux pilotes de se révéler. Voilà, c'est ça qui est important. Alors, évidemment, le dernier volet, c'est le règlement qui ne permet plus aux pilotes de se mettre en évidence, comme on le sait, même sur les magnifiques circuits comme Spa, comme Suzuka, etc.
Même bon, si on a gagné un peu en largeur, les voitures sont un petit peu moins larges,
oui.
Un peu moins des tanks.
Non, mais ça, c'est bien. Ça, bien sûr, et le poids, il faudrait encore enlever 150 kilos. Peut-être qu'avec le V8, on y arrivera.
Tiens, Jean-Luc, quels sont les 4 pilotes français à s'être imposés à Zandvoort ?
Oula ! Alors, écoute, forcément Alain Prost.
Deux fois. 81, 84.
Forcément René Arnoux.
René Arnoux, 83.
Est-ce que Jacques s'est imposé là ?
Non.
Non, pas
Jacques. T'as un autre pilote français chez Ferrari.
Alors, c'est pas Patrick, bien sûr.
Mmh, en 82.
Didier Pironi.
Didier Pironi, ouais. Et 4 victoires françaises de suite à Zandvoort dans les 80. Ouais, ça fait rêver, hein, quand je vous dis ça.
Absolument. Ça fait rêver, c'est tout à fait
et
ça.
Et que de beaux pilotes et dans de belles voitures, ouais. Ferrari ou McLaren pour Alain Prost. En bref, avant de se quitter, évidemment, un mot de Max Verstappen. Alors, c'est vrai qu'on lit beaucoup de commentaires, on est pro Verstappen, on n'arrête pas de dire que du bien de Max Verstappen. Bon, on peut en dire un peu du mal parce que là, c'est quand même une erreur de débutant. Déjà, en qualif à Spielberg en Autriche, dans le dernier secteur, il avait été très gourmand, il avait perdu la voiture, il avait fini dans le bac à gravier, Jean-Luc, et même un petit peu dans les tech pro. Là, très gourmand chez lui, trop gourmand c'est quand même une erreur. Oui, moi, je la qualifie d'erreur de débutant quand même. Hein, parce que si c'est Lance Stroll qui fait la même, on rigole pendant 15 jours.
C'est exactement ça. Mais moi, j'étais sidéré. La sidération, c'est ça. Je me suis dit, non, c'est pas lui. D'ailleurs, au début, je croyais pas. En plus, c'était à contre-jour. Hein, vous avez vu, il y avait le reflet. J'arrivais pas à me dire.
Non, c'est Lawson, c'est sûr, c'est Lawson.
J'arrivais pas à me dire, c'est Verstappen quoi, qui a fait ça. Parce que là, elle est énorme. En plus, j'ai regardé comme vous aussi au ralenti à plusieurs reprises. Il mord légèrement l'intérieur. Non seulement il descend bas, et évidemment l'humidité avec le banking de 18 degrés, toute l'eau descend. Bon, ça c'est ok, c'est pareil pour tout le monde. Mais lui en plus, il met un peu les pneus, un petit peu sur le vibreur. Alors on sait que les vibreurs, ils sont toujours gorgés d'eau. Et sur la ligne blanche, terminé. Là, comme ils sont à la limite, ils sont à fond absolu pour sortir. Là, il a commis, oui, une erreur. Débutant, c'est toujours humiliant, mais une erreur incroyable, sidérante, je te dis. C'est le mot qui me vient à l'esprit. D'ailleurs, lui-même, il n'y a rien à dire. Quoi. Il a fait la connerie du siècle, malheureusement, pour le dernier Grand Prix. C'est très dommage.
Et à domicile, après la prolongation, il devait être content chez Red Bull, parce qu'on parle d'un montant, je crois, de 115 millions la saison avec bonus. Et là, il a planté la caisse. Il y en a moins pour 1 million d'euros de dégâts, hein, je pense. Hein.
Bah, c'est la saison. Je pense que Leclerc qui prolonge juste avant Monaco, il la met dans le mur. Verstappen aussi.
Raison.
Attention à la prochaine prolongation.
Ben, et regarde,
Sainte-Salbonne.
Sainte-Salbonne.
Et prolonge les deux, hop, contact.
C'est pas bon. C'est pour ça que les autres écuries ne vont pas prolonger. Mais on est idoles, on attend la fin de la saison.
Bon, Max, on attend évidemment la suite. C'est vrai que là, ça a été quand même... saison un peu difficile là, quand on voit l'amélioration des McLaren qui sont là, les Ferrari aussi, on voit que Red Bull, clairement la quatrième écurie du plateau. Hein.
Oui, oui, bah là ils sont pas très bien, il y a encore des développements à venir, mais enfin là manifestement ils étaient même très très mal, presque oui, plus mal qu'en Hongrie. Je pense qu'il va y avoir, alors il y a aussi, Laurent Mekies l'a dit, Max l'a laissé entendre aussi, il va y avoir beaucoup de upgrade là, jusqu'à la fin de la saison, et ben, il vaut mieux, hein, parce que là, oui, ils sont toujours quatrième écurie, mais s'ils veulent même garder cette position, il va falloir s'en occuper très sérieusement, et puis surtout fournir à Max et à Isaac, évidemment par voie de conséquence, une monoplace qui leur permet à minima d'être sur le podium, et j'espère de remporter des grands prix, hein, parce que... tout peut être mis en cause. On a vu aussi avec le supplément Max, évidemment, en qualif notamment, il peut toujours nous sortir un tour de folie. Donc, et on le sait, on vient de l'évoquer encore. Je ne pense pas qu'il soit traumatisé par cette sortie de piste. Bon, il doit s'en vouloir en disant je suis le roi des imbéciles.
Surtout parce que c'est à Zandvoort, après
voilà,
le reste.
Voilà. Là c'est la double ou la triple humiliation, bien sûr. Bon, bah, il va mettre son mouchoir par-dessus. Et puis, Monza, c'est un autre circuit. Mais j'espère surtout que, oui, Red Bull va apporter des modifs qui vont permettre, puisqu'ils ont le meilleur moteur de la Terre. Hein, qui nous l'a dit. Donc, c'est le châssis qui va.
Tu la vois comment, la deuxième partie de saison de Red Bull? C'est un peu bizarre, on ne sait pas. C'est flou. Est-ce que faut penser un peu à 2027, mais on reste évidemment sous le même régime, la même réglementation. Voilà, ils sont quand même bien largués. Qu'est-ce qui, enfin, on peut pas viser grand-chose, hein.
Bah, c'est très compliqué de voir l'avenir chez Red Bull. Tu l'as dit, il est très très flou, parce que même niveau développement, c'est pas trop ça. Bah, niveau moteur, si en plus ils ont pas la duo, bah ça va encore plus se compliquer pour eux. On voit Ferrari et McLaren qui devant au niveau développement, ça envoie. Mercedes, c'est un peu à la traîne, mais ils ont tellement d'avance qu'au final, ils ne vont pas les rattraper. Je pense qu'ils vont rester quatrième force et peut-être davantage se tourner vers 2027 en espérant un meilleur rebond durant l'hiver, oui.
Voilà pour Max qui sera attendu à Monza pour le prochain Grand Prix dans 2 semaines. Un mono français, Esteban Ocon ne termine pas. Il était dans le peloton. C'est noté que les deux As ne terminent pas, puisque Berman est évidemment impliqué à laisser des débris avec le crash de Verstappen. Mais Pierre Gasly, 8e fois dans les points encore pour Pierre. Belle course, il s'est battu. C'était pas évident, Jean-Luc, mais il est là. Il arrive à faire des top 10. Ouais, le 8e, plus de la moitié des courses qu'il a disputées, il les a terminées dans les points. Hein.
Il est très solide, Pierre, on le dit à chaque fois. Effectivement, il mérite une meilleure voiture que celle qu'il a là. Il s'est plaint un petit peu, vous l'avez vu comme moi, les commentaires de la collusion et l'association des Racing Bull, des pilotes Racing Bull. Ils ont dit « Ah, ils ont joué le jeu d'équipe, je m'en souviendrai ». Bon, il n'est pas tombé de la dernière pluie, il le savait. C'est une manière de dire qu'effectivement, il y avait peut-être encore mieux, mais c'est formidable de terminer dans les points. Écoute, c'est lui qui tient l'écurie là pour le moment, hein, puisque en plus, Franco Colapinto n'avait pas les évolutions. Hein. Apparemment, ça jouait quand même. Sur la
mais il avait les pénalités.
Il a eu les pénalités, ça on peut le dire.
D'ailleurs, incompréhensible la pénalité. Hein. Ouais. Faudrait y revenir parce que tu as Tsunoda qui est à côté de lui. Ouais. L'accident est juste devant Tsunoda. Colapinto est côte à côte avec Tsunoda. Tsunoda pile pour éviter Max Verstappen. Colapinto, qu'est-ce qu'il est censé faire ? On ne sait pas.
Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est une pénalité aberrante même. Le principal, c'était d'éviter ce qui se passait sur la piste. Après, puis en plus, ça ne sert à rien. Bon, ok, je sais, il y a un nouveau départ. On a repris les positions. Mais enfin, ou alors, à la limite, on... Ouais, enfin, je n'ai pas compris non plus. Je suis d'accord.
Bon, oui, c'est un peu...
Ouais. En tout cas, Pierre dans les points encore, tu as raison.
Ouais, ouais, franchement, regardé, il n'y a que trois courses où il a manqué les points. Alors, c'était récemment, la Belgique et la Hongrie. Quand on voit ça, il a 44 points, il est juste derrière Liam Lawson.
Et pourtant, il perd une place, oui, parce que Lawson lui passe devant, mais bon...
C'est... Ouais. Avec 4 points, points de plus, non, c'est la saison.
Comme toujours, il est très solide en course, hein, et même en qualif, parce que quand même, il a fait pas mal de Q3 aussi. Écoute, on espère là aussi que les évolutions vont arriver et vont leur permettre de continuer à se battre avec Racing Bull dans les meilleures conditions, voilà.
Ouais, ils sont sixième au classement des constructeurs avec 63 points, juste derrière Racing Bulls. Bon, c'est leur place, ouais, ça va être une bataille intéressante pour la cinquième place, même si peut-être quand même Ilyès, plus d'arguments du côté de l'écurie sœur de Red Bull, Racing Bulls, pour aller chercher, garder cette place. C'est vrai que tu te dis qu'il n'y a que 3 points d'écart. Il y a quand même l'impression que Racing Bulls en a plus sur le pied. Et déjà, peut-être deux pilotes capables de vraiment scorer, même si... Colapinto a mis quelques points, mais on le sent quand même un cran dessus.
Oui,
Pierre.
C'est pas le même niveau.
Bah, c'est sûr que Racing Bull déjà a un duo de pilotes performants, tous les deux. Déjà, je pense aussi qu'ils ont une meilleure voiture sur l'ensemble des Grands Prix. Ils vont peut-être pouvoir marquer des points plus régulièrement qu'Alpine. Par contre, attention au développement d'Alpine qui peut être intéressant. Et dans ce cas, Gasly marquait des plus gros points. Là, il a pris qu'un seul point, mais on l'a vu frustré. Et c'est compréhensible parce que je pense que la 8e place était atteignable quand on voit que Hülkenberg portait derrière lui, que Alonso portait 7 places derrière lui. Il y a un petit peu de frustration. Donc en vrai, je pense que ça peut jouer. Il faudra surtout voir le développement et le niveau de Colapinto sur la deuxième partie de saison.
Allez, rendez-vous dans 10 jours pour la présentation de ce Grand Prix d'Italie, Monza. Ah,
Monza,
évidemment.
C'est toujours un monument. Hein, là, c'est pareil. Oui. Le temple de la vitesse. Tu sais, j'aime bien les clichés comme ça, mais c'est vrai. En plus, on atteint des vitesses de... Ça va être 350 km/h juste avant.
Puisqu'on parlait de Pierre Gasly, évidemment, des beaux souvenirs à Monza avec
excellent.
La victoire de Pierre
la
Gasly.
Victoire de Pierre, bien sûr. Voilà,
la victoire qui avait mis fin à cette disette de. Ouais. C'était pas Nice 97, donc
c'était
ça faisait
pas Nice
23
96.
Ans. 96. Donc 24 ans. Après, ouais, voilà, on beaucoup. S'en souvient évidemment de cette
on
victoire.
On en veut bien une autre.
Allez, on signe Adjar, évidemment.
Adjar
pour le retour. Belle proposition, Ilyès. Allez, n'oubliez pas de liker, de mettre les 5 étoiles, de nous suivre, d'être abonné au podcast Paddock. Comme tous les lendemains de Grand Prix, téléchargeable sur vos plateformes. Merci Jean-Luc.
Mais
let's go back to Miami.
Yes, thanks a lot.
Et à bientôt. See you soon. Ciao.
Le Paddock RMC.